Le 11 novembre 1918 marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Le 28 juin 1919, la signature du traité de paix. Ce traité de Versailles, ratifié par les Alliés et l'Allemagne vaincue dans la Galerie des Glaces au château de Versailles, est perçu comme un diktat outre-Rhin. L'Allemagne doit payer de nombreuses dettes de guerre et son armée est réduite à 100 000 hommes. On estime que l'Allemagne a perdu un septième de son territoire et 10% de sa population. À l'occasion du centenaire de la commémoration de ce traité, le musée des Beaux-Arts d'Arras s'associe de nouveau avec le château de Versailles pour vous faire vivre cette journée du 28 juin 1919. Marie-Lise Marguerite, directrice du musée, nous présente l'exposition. On évoque entre autres son organisation.
Alors cette exposition, c'est la quatrième opération du partenariat Versailles à Arras qui unit la région Versailles et la ville d'Arras. Et c'est une exposition qui est consacrée à la commémoration du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919. Donc c'est une exposition historique, mais qui permet de restituer aussi cet événement dans l'histoire de la relation franco-allemande sur le temps long et dans l'histoire du château de Versailles.
Sur le plan historique, quel était le contexte à l'époque, au moment de la signature ?
Alors on sort tout juste du conflit, à vrai dire le conflit n'est pas réellement terminé puisque c'est bien le traité de Versailles qui marque la fin, l'arrivée de la paix, le déclenchement de la paix, le passage d'un état de guerre à un état de paix. On est vraiment uniquement dans la période d'armistice, de cessation du conflit et dans une période assez tendue et exaltante puisque toutes les forces mondiales finalement vont se réunir en France, à Paris, pour discuter la paix, des contours de cette paix et finalement des orientations du monde moderne.
Et pourquoi le château de Versailles ?
Alors ça, je crois qu'on le doit à Clémenceau. C'est aussi l'héritage de cette histoire très complexe entre la France et l'Allemagne ou l'Empire germanique depuis très longtemps, depuis Louis XIV à vrai dire, et depuis la création du château de Versailles. C'est notamment le décor de la Galerie des Glaces qui fait la part belle aux conquêtes françaises au détriment de l'Empire, qui est un symbole pour les puissances étrangères d'asservissement et qui finalement va nourrir un sentiment de revanche et de puissance, notamment du côté germanique, avec la proclamation en 1871 de l'Empire allemand, non pas en Allemagne, mais à Versailles, dans la Galerie des Glaces. Et finalement, c'est pour laver cet affront-là que les Français, Clémenceau en tête, vont avoir à cœur, dès le déclenchement du premier conflit mondial, dès 1914, en tout cas dès 1915, on se dit qu'il faudra signer la paix du premier conflit mondial à Versailles, dans la Galerie des Glaces.
Alors je suppose qu'ici vous avez des objets d'époque, comment vous les entretenez ?
Alors c'est vraiment la mission du musée et des conservateurs. Les collections effectivement patrimoniales richissimes qui nous sont transmises, léguées et prêtées par le château de Versailles, eh bien on y apporte une attention particulière. D'abord on contrôle le climat, l'hygrométrie, la température. Vous pourrez aussi en passant dans nos espaces voir combien nos agents de surveillance sont attentifs à ce que vous ayez beaucoup de plaisir à la visite mais que vous soyez aussi respectueux du patrimoine qui nous est confié. Et puis on va voir tous les jours finalement ces objets, on passe leur dire bonjour, on essaie de voir comment ils évoluent dans notre climat, dans notre contexte.
Est-ce que pour vous c'est important de commémorer 100 ans après ?
Alors la mémoire est forcément, en tout cas de mon point de vue, quelque chose d'essentiel. Quand on ne se souvient pas, on ne peut pas progresser. En tout cas moi j'y crois très fort. C'est aussi ce qui fonde un peu l'ambition et l'intérêt d'un musée. La Première Guerre mondiale, le premier conflit mondial qui a un impact si fort sur notre territoire des Hauts-de-France a été commémoré et célébré. En tout cas on a essayé d'en travailler la mémoire depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était important pour nous de pouvoir parler du traité de Versailles, qui est cet événement conclusif du premier conflit, à Arras, au cœur des Hauts-de-France, parce que finalement ça vient conclure cette grande séquence commémorative qui nous a suivis pendant ces dernières années.
Pourquoi la ville d'Arras ? Est-ce que c'est un souci de proximité avec des villes comme Londres, Berlin et Paris ?
C'est d'abord et avant tout l'opportunité offerte par le partenariat qui nous unit avec le château de Versailles, le lien très fort qu'il y a entre l'abbaye Saint-Va et le château de Versailles aujourd'hui, et qui effectivement nous permet d'avoir ce très beau cadeau fait par l'établissement public du château de Versailles, de nous prêter les objets qui nous permettent de commémorer un événement, non pas dans la banlieue parisienne, non pas à Versailles, mais bien à Arras. Pourquoi Arras ? Parce que c'est aussi le cœur des Hauts-de-France, encore une fois. fois et que ce territoire global des Hauts-de-France a été l'un des territoires majeurs, en tout cas extrêmement marqué par le premier conflit mondial.
Comment ça s'organise ce genre d'exposition? Comment on amène toutes ces œuvres d'art dans une autre ville?
Ça s'inscrit dans une durée assez longue puisque on déplace effectivement pas un objet du Trésor national comme ça impunément. Ça s'inscrit dans un projet qui est construit. Donc on confie à un conservateur ou à un historien un projet scientifique. Il va traduire les idées, un discours en objet, en espace, avec l'aide de scénographes. Donc ça, c'est tout le travail que l'on conduit, notamment avec les conservateurs de Versailles, et en l'occurrence ici, avec Bertrand Rondeau, qui est le co-commissaire de l'exposition. Et puis, eh bien, ensuite, on passe du dessin à la concrétisation, donc du projet scénographique construit aussi avec l'architecte, à la réalisation, à la mise en place des objets, et de tous les outils de médiation qui les entourent. Parce que les objets désincarnés, posés au milieu de salles, laissés vide ne serait pas compréhensible par le public, et c'est bien tout l'enjeu de la mise en espace, de la mise en scène et des discours et de la présence des guides et des actions culturelles qui sont mises en place autour de l'exposition que de permettre à ces objets finalement de parler au public d'aujourd'hui.
Donc si je vous entends bien, l'exposition est adaptée à tous, même à ceux qui ne connaissent pas forcément la période historique.
C'est bien l'enjeu, hein, c'est bien notre objectif, en tout cas que cette exposition elle soit accessible au public le plus large possible. Et effectivement, le plaisir de la déambulation, le plaisir de la rencontre avec l'objet, on essaye de le favoriser. Je pense que c'est un acquis en tout cas pour cette exposition-là, notamment grâce à l'emploi de multimédia, d'une scénographie assez innovante et immersive, qui était aussi un de nos enjeux sur ce sujet particulièrement historique. Et puis les textes sont travaillés de manière à la fois percutante, très scientifique, mais aussi très simple et très accessible. Ils sont accessibles aussi à tous parce qu'ils sont traduits dans plusieurs langues. Et puis, au-delà des textes et de tout ce qui est physiquement présent en permanence dans l'exposition, on a, au-delà aussi de la vidéo, des outils numériques que j'évoquais tout à l'heure, on a la présence humaine, puisque des guides, en fonction des besoins, en fonction des groupes qui sont accueillis ou en fonction des périodes de l'exposition, sont amenés à vous accompagner dans l'exposition. Par exemple, le premier dimanche du mois, dimanche gratuit, donc où chacun peut venir sans débourser un centime pour voir l'exposition, eh bien vous trouverez des guides conférenciers dans les salles, ainsi que des lecteurs de l'association Lire et Faire Lire, pour vous faire percevoir, comprendre et vivre autrement et probablement de manière plus aisée, la visite et l'exposition.
Nous rejoignons maintenant Marie-Lise Marguerite à l'intérieur de l'exposition pour une visite guidée des trois salles.
C'est une exposition sur un format un peu plus resserré que les expositions antérieures du partenariat Versailles à Arras, puisqu'on se concentre sur trois salles, trois espaces. Une salle de contextualisation, d'introduction, qui va nous expliquer finalement pourquoi on en arrive là et pourquoi le 28 juin 1919, le traité de paix de la Première Guerre mondiale est signée dans les Galeries des Glaces à Versailles. C'était l'objet de votre première question tout à l'heure. Et puis, donc, on a une remise en contexte vraiment de ce moment, de cet instant même de la signature dans le cœur de l'exposition. Et en troisième partie, on évoque davantage la fabrique de l'événement. Comment finalement, quand on est conservateur d'un musée, et en l'occurrence du château de Versailles en 19, on va organiser un événement diplomatique de niveau international, et puis un peu les conséquences aussi politiques, géopolitiques du traité, même si ce n'est pas l'objet de l'exposition, puisqu'on n'a pas l'ambition de faire la synthèse de la problématique historique, politique et économique qui ont encore des conséquences sur notre monde actuel, mais voilà, il y a quand même certains principes qu'il fallait absolument transcrire auprès du public et rappeler. Donc là, on se trouve dans le premier espace de l'exposition, l'espace historique et contextuel, qui permet aux visiteurs, finalement, d'être très vite emmenés dans le premier conflit, avec une œuvre qui fait un peu la synthèse de ce conflit, hein, une œuvre de Leroux, une œuvre monumentale dans laquelle on voit un peu tous les aspects terribles de la guerre, la mort qui nous est affichée dans cette grande Pietà, réalisée dans des camaïeux de bleu. Alors c'est pas du tout une image sanguinolente, elle est très symbolique, mais elle est aussi extrêmement forte, et elle suffit à elle seule à rendre compte du vertige de la destruction et des pertes humaines qu'ont causé, du traumatisme donc qu'a causé le premier conflit mondial. Et puis finalement, juste devant ces œuvres-là, on voit apparaître deux portraits, alors qui peuvent paraître incongrus de prime abord, Louis XIV à gauche, Napoléon à droite. En fait, ces personnages emblématiques du pouvoir français ont aussi tenu un rôle très particulier dans la relation qu'on évoquait tout à l'heure entre la France et les pays étrangers, et notamment les pays germaniques. Et finalement, le sentiment d'insoumission à la France de ces parties du monde, elles naissent au moment de l'extension territoriale de Louis XIV et au moment de la conquête napoléonienne. Alors ensuite, on évoque précisément la période de Louis XIV et précisément le château de Versailles et la galerie des glaces en particulier. Parce que Louis XIV, qui est un homme politique brillant et un grand conquérant, sait aussi combien le décorum, combien l'étiquette va tenir un rôle dans la diplomatie européenne et mondiale, et construit le château de Versailles, et en particulier la galerie des glaces, avec cette perspective-là. Il va la décorer de manière très spécifique, avec notamment des peintures au plafond qui évoquent la soumission de l'Allemagne, qui sont des éléments qui vont être repris par voie de presse, par la gravure, et qui vont être diffusés largement dans le monde, et qui vont être vécus comme des éléments perturbateurs et très, très négatif par la population allemande. Donc tous les éléments, les événements diplomatiques qui ont lieu dans la Galerie des Glaces sont évoqués. Le décorum qui est pratiqué sous Louis XIV et sous ses successeurs est aussi évoqué à travers des œuvres donc anciennes, notamment un très beau tableau de Nicolas de l'Argivière. Donc là on est vraiment dans la période faste de Versailles, qui représente l'ambassade de Perse, du chat de Perse, et les tissus magnifiques, et aussi l'aménagement de la Galerie des Glaces avec un Louis XIV qui règne et qui est assis, qui trône du côté du Salon de la Paix, puisque vous savez peut-être que la Galerie des Glaces qui s'articule avec à une extrémité un Salon de la Guerre et à l'autre extrémité un Salon de la Paix. Et donc les événements diplomatiques sont symboliquement, systématiquement tournés du côté du Salon de la Paix. Alors le bureau, c'est l'acteur principal finalement de la signature, c'est un bureau du XVIIIe siècle réalisé par Cressan, une des pièces majeures du mobilier de Versailles, et il a été choisi par les conservateurs de Versailles et validé par Clémenceau parce que précisément il représente le bon goût français. Donc il est présenté au centre du projet, au centre de l'exposition, parce que c'est le seul témoin aujourd'hui vivant, j'allais dire, en tout cas physiquement présent, qui nous reste. Il est présenté avec le fauteuil qui lui aussi a servi au moment de la signature, qui lui est d'un style différent d'ailleurs, et du style de l'époque de Louis XIV, donc on est sur des siècles différents, ils n'ont rien a priori à voir ensemble, stylistiquement, sauf que historiquement, à eux seuls, ils font la synthèse de l'histoire de Versailles, du goût français et de la magnificence de la France et du château de Versailles. Donc on les présente effectivement au centre, ce qui nous permet aussi de restituer une forme d'espace de la Galerie des Glaces et de permettre aux visiteurs finalement de se mettre dans la peau de ceux qui ont gravité autour de ces objets, aussi bien les alliés que les Allemands, donc aussi bien les vaincus que les vainqueurs. On arrive dans cette deuxième salle, donc qui est le cœur de l'exposition, le pivot de l'exposition, l'instant de la signature, face au signataire, donc a priori dans la position de l'allié, ce qui est plus facile pour un Français, et on va se retrouver face au jardin, qui est évoqué à travers une projection animée, donc un jardin finalement vivant, et c'est bien l'instant de la signature que l'on veut évoquer par cette scénographie immersive. Tout le décorum, il est également présenté grâce à des documents d'époque, et notamment des tableaux qui ont été réalisés juste après la signature, un très beau tableau de Delbecq qui nous nous a servi de contextualisation. Et puis la plume commémorative, un objet très symbolique, la plume qui n'a pas servi à la signature, mais qui a été donnée par Clémenceau à Pierre de Nolhac, donc au conservateur de Versailles, juste après la signature, et une plume qui est ornée du mot Pax, donc voilà, extrêmement symbolique. C'est comme ça que le visiteur entre dans cette exposition. Et puis, petit à petit, il va être amené à découvrir, pour pouvoir découvrir le bureau, à tourner autour. Et il va retrouver face à lui une autre reproduction, la reproduction d'un tableau de William Orpen, un peintre écossais qui a suivi les troupes britanniques lors du premier conflit mondial et qui est habilité à participer, en tout cas à assister à la signature du traité de paix, juste derrière les signataires. Donc on se retrouve vraiment dans sa position à lui. Et on voit finalement face à nous le bureau, les deux plénipotentiaires allemands, donc ceux que l'on voit en train de signer à l'instant, et l'ensemble des alliés. Par ce jeu comme ça de mise en situation, d'une part, on peut identifier chacun des acteurs, et c'est bien l'objet du dispositif multimédia, chacune des signatures, donc on a aussi la restitution de l'instant de la signature, mais on voit aussi, enfin en tout cas on perçoit combien finalement cet acte de signature a pu être là aussi traumatique et humiliant pour la nation allemande, combien au contraire il y a une forme de cohésion des alliés qui ont un besoin de reconnaissance, qui ont un besoin de laver un affront et des pertes extrêmement importantes qui ont été causées par la Première Guerre mondiale. La scénographie, elle permet, en tout cas on aimerait que ce soit le cas, elle permet aux visiteurs de ressentir l'intensité de ce moment diplomatique. Le grand absent de l'exposition, celui qu'on ne voit pas, en tout cas aujourd'hui, c'est le traité de paix lui-même, puisque l'original du traité signé a été perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. En tout cas, on a la chance, non pas d'avoir le document original, mais d'avoir certaines copies, notamment des copies photographiques à travers le magazine L'Illustration, et puis une copie numérique d'un acte de ratification. Donc c'est le document qui a été présenté aux Français et aux parlementaires français, signé par Poincaré, qui n'a pas assisté à la signature mais qui a eu la charge de présenter ce texte aux Français, aux représentants de la France, et donc dans lequel on peut voir et on peut lire la totalité du texte dactylographié. C'est le premier traité diplomatique qui ne soit pas écrit à la main, mais qui soit tapé de manière moderne. C'est aussi le premier traité de paix international, véritablement, et le premier bilingue, en français, mais aussi en anglais. Et voilà, on sent qu'on est au XXe siècle et que quelque chose est en train de changer. Donc vous verrez que la totalité des pages est en français d'un côté, en anglais de l'autre. On a une alternance de pages. Et puis si on veut aller plus loin et qu'on n'a pas envie de lire la totalité des presque 500 pages du traité, on peut quand même avoir accès à quelques éléments particulièrement importants, et notamment dans les sélections d'articles, l'article 231 qui reconnaît et qui impose à l'Allemagne la reconnaissance de sa totale, pleine, entière et unique responsabilité dans le déclenchement du conflit. C'est un article qui est fondamental parce qu'il justifie les demandes de réparation des dommages de guerre qui sont extrêmement importantes, faites à l'Allemagne par l'ensemble des alliés, et en particulier par la France et la Belgique, qui sont les pays également les plus détruits par le premier conflit mondial. Alors après avoir essayé de revivre un petit peu cet instant de la signature, on va emmener le visiteur vers les coulisses de l'événement pour montrer voilà, comment finalement on transforme une galerie des glaces qui est un espace à l'époque dans un vieux château assez décrépit, parce que la Première Guerre mondiale elle a eu lieu et que l'effort de guerre a fait que finalement le château a été un peu délaissé pendant le premier conflit. Et donc on va transformer cet espace-là en un espace à même de soutenir le plus grand événement diplomatique mondial jamais organisé dans l'histoire, puisque la totalité des continents est représentée et que c'est bien le premier traité de paix international qui soit signé. On a notamment des documents d'archives qui ont été très peu vus, jamais vus, je pense, du public. Des éléments assez intéressants, notamment la liste de commandes de l'architecte Chausmich, qui était en charge de la Galerie des Glaces, qui finalement va devoir lancer des commandes et des travaux très très rapidement pour pouvoir être à la hauteur de l'événement. On a aussi le plan d'implantation de toutes les délégations au moment de la signature. On a des photographies d'époque, des laissés-passer. Donc ce sont autant d'objets qui n'ont pas une grande valeur patrimoniale, pas autant que le bureau, mais qui permettent de percevoir aussi le quotidien, l'événement dans sa part la plus intime. Et puis de l'autre côté de la pièce, on voit aussi les conséquences un peu plus publiques de la signature du traité, avec l'évocation du moment de la signature, avec cette photo grandiose où on voit finalement la population qui s'amasse devant le château, à proximité du château, qui va bien d'ailleurs finir par faire tomber les barrières de police pour aller au-devant de Clémenceau, de l'ensemble des alliés des plénipotentiaires et célébrer ensemble la paix, tandis que les Allemands, eux, repartent de manière tout à fait isolée et très discrète du château de Versailles, juste après la signature, et donc ne participent pas à la célébration de la paix. On voit d'ailleurs dans l'une des vitrines tous les documents d'archives qui expliquent les conditions de l'accueil de l'Allemagne et de la discussion de la paix entre l'Allemagne et les alliés, et on perçoit à ce moment-là le très fort décalage entre le traitement des alliés entre eux et de l'Allemagne de son côté, et on perçoit aussi pourquoi finalement en germe de cette paix il y a déjà quelque chose du registre de la guerre ou du conflit. On a la chance également d'avoir obtenu du château de Versailles la réalisation d'un film documenté, donc sur la base d'archives, là encore inédites, du château de Versailles, qui permet d'expliciter réellement, minute après minute, j'allais dire, à la fois la préparation de l'événement et son déroulement. Donc c'est aussi un outil de médiation extrêmement intéressant.
La visite se termine par le travail de collégiens et lycéens réalisé dans le cadre d'un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts.
Ça s'inscrit dans une démarche qui nous est vraiment propre et qu'on porte haut et fort, de travail au quotidien avec les scolaires et d'ouverture aussi de notre pôle culturel, du musée, des médiathèques, auprès du public. C'est-à-dire que le public chez nous n'est pas uniquement visiteur, il n'est pas uniquement passif, mais il devient de plus en plus acteur. Notamment les scolaires, qui, dans chaque exposition du traité de Versailles, ont eu un rôle à jouer, un rôle de médiation, un rôle de création. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'exposition du traité de Versailles, l'ampleur prise par cette place consacrée aux scolaires, elle est tout à fait inédite, puisqu'ils ont en quelque sorte eu le droit de soutenir le commissariat scientifique d'un conservateur de Versailles. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une manière de rendre le sujet plus actuel. C'est aussi une manière de garantir que ce sujet sera compris, saisi par les générations actuelles, par les plus jeunes, et transmis de manière assez simple au public, encore une fois le plus large possible. Donc c'est à la fois les engager à s'investir dans un sujet historique, les engager aussi à comprendre ce qu'est un musée, ce qu'il apporte, hein, et ils sont aussi nos ambassadeurs, nos meilleurs ambassadeurs à ce titre-là, auprès de leur famille, auprès de leurs proches, et puis c'est garantir aussi l'accessibilité à tous les publics, parce que finalement quand on a déjà comme ça un niveau de simplification dans le bon sens du terme d'un sujet scientifique, eh bien on s'assure aussi que tous les publics pourront y accéder plus facilement. Voilà, dans les dernières propositions faites par les étudiants, on a aussi l'évocation des autres participants, donc ceux qui ne sont pas les grands diplomates, mais qui vont être notamment les gueules cassées, les combattants choisis par Clémenceau comme les veuves de guerre pour assister à l'événement, être placés à proximité des signataires allemands et montrer finalement aussi le traumatisme de la Première Guerre. Donc c'est un des focus réalisés par l'un des groupes scolaires partenaires, la cité Gambetta Carnot. Et puis on a également une proposition qui permet de restituer le lien entre le territoire local et l'événement international à travers des unes de presse tirées des journaux locaux, notamment le Lion d'Arras, et faisant un parallèle aux unes nationales et qui permettent finalement de retracer le parcours des plénipotentiaires depuis 1918, puisque les premiers arrivent dès 1918 sur le territoire français, vont parcourir les territoires mutilés et notamment Arras en ruine va être l'un des espaces de visite, et puis refont le lien aussi avec la reconstruction qui débute à Arras juste après la signature du traité.
L'exposition, composée d'une vingtaine d'œuvres, est détaillée, bien expliquée et claire. Et cela semble plaire aux visiteurs.
Je trouve que c'est une exposition très complète, une très très bonne introduction au traité de Versailles. Et on sait qu'il a eu des conséquences énormes au niveau européen et même mondial. Donc je trouve c'est important de retracer cette époque.
Moi je l'ai trouvée très didactique parce qu'elle met bien en place avec les cartes et avec les photos le déroulement des événements et elle apporte même des renseignements qu'on avait un peu oubliés.
Il y a une bonne rétrospective de la signature du traité de Versailles et en fait on apprend des événements complémentaires, notamment tous les participants qui ont assisté à la signature. On voit aussi par exemple la signature des gueules cassées qu'ont participé à la signature plutôt. Il y a des découvertes dans cette exposition et puis des compléments d'informations et des choses qu'on connaissait. C'est un tout, mais elle est très intéressante et c'était bien de le faire.
L'exposition est visible les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h à 18h, ainsi que les samedis et dimanches de 10h à 18h, et ce, jusqu'au 11 novembre 2019. Elle coûte 2 euros pour tous, mis à part les moins 25 ans, pour qui elle est gratuite. Pour plus d'informations, contactez le Musée des Beaux-Arts d'Arras au 03 21 71 26 43.